Bonjour à tous et bienvenue dans E égale NS, la nouvelle version de ENCIS, l'émission scientifique de Transistor, votre web radio préférée de l'ENS de Lyon.
Pour commencer, vous vous demandez peut-être pourquoi E égale NS. Et comme nous sommes une émission scientifique, vous attendez que l'on justifie tout ce que l'on fait.
De la rigueur, que diable !
Alors il y a deux raisons. La première et la seconde.
Et en détail ?
La première, c'est que pour toucher un public scientifique plus large, nous avons décidé de raccourcir de deux lettres le nom de l'émission.
À bas les lettres !
Et d'ajouter un symbole mathématique.
Vive les symboles mathématiques !
La deuxième, c'est que nous inaugurons cette année un nouveau concept. Et qui dit nouveau concept dit...
En scène.
Dit nouveau nom.
Et puisqu'on est dans le 9...
Carré de 3 ! Oh, t'as vu, j'ai bien révisé les maths pendant l'été.
Nous sommes désormais épaulés par Théo, un L3 géologie.
Bonjour.
Et nous serons peut-être bientôt rejoints par Farid, qui fait une thèse en sciences humaines.
Et nous frappons fort, car nous avons même un nouveau jingle.
Il était temps. Si vous n'êtes pas vous aussi comme Eric Woerth, frappé d'Alzheimer, vous vous souvenez peut-être que nous vous avions demandé dans une de nos anciennes émissions de nous envoyer vos questions sur la vie quotidienne.
Et certains d'entre vous ont plus joué le jeu que d'autres.
Mais comme on n'est pas des balances, on ne dira pas qui. Un plancus.
Aussi, nous vous proposons aujourd'hui une émission consacrée à toutes ces petites questions qu'on peut se poser au cours de la journée.
Et pourquoi elles seraient si petites que ça, ces questions ? D'ailleurs, en parlant de petites, on commence par la petite Hildegarde de Bure-sur-Yvette qui nous demande... Pourquoi est-ce qu'on dort allongé ?
Eh hey, mais c'est pas une question de physique ça. On avait dit qu'on filtrait les questions, non ? Bon, Théo, t'es en géologie, tu fais presque de la biologie, tu peux répondre ?
Ouais, bon, c'est simple. Nos muscles se relâchent pendant notre sommeil. Alors si on ne veut pas tomber, c'est mieux de se mettre dans une position où on n'a pas vraiment besoin de soutien musculaire. Parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais pour se tenir debout, certains de nos muscles sont tendus pour contrer l'effet de la gravité. Et pas besoin d'aller à l'AS pour ça.
Parce que l'AS vous muscle
oui,
les...
Oui, bon, on a des enfants qui nous écoutent et puis on a des enfants qui nous posent des questions après. Donc on va éviter les sujets glissants.
Et donc, c'est ce qu'on appelle le tonus musculaire. Et quand on dort, tout se relâche.
Vraiment tout ?
J'ai dit quoi sur les sujets glissants ?
Alors forcément, si on reste debout, on tombe.
Je l'ai toujours dit que les profs soporifiques, c'était un danger pour les étudiants.
Bon, et moi j'ai une question pour l'historienne qui ne filtre pas les questions qu'on reçoit. Alors, est-ce qu'on a toujours dormi allongé ou est-ce que, par exemple, au Moyen-Âge, les gens dormaient assis, comme on l'entend parfois ?
Alors, j'ai cherché pour vous, notamment dans l'histoire de la vie privée de Duby, et... Eh ben, rien. Aucune mention. Il semblerait que ce soit davantage un mythe qu'une réalité, ou qu'en tout cas, ce phénomène soit circonscrit à un temps très court ou à la seule famille royale. En fait, le fait d'avoir peur de dormir allongé parce que ça rappelle la position des morts relève plus de toutes les peurs et de tous les fantasmes religieux et superstitieux qui sont liés à la nuit, comme le montre Jean Verdon dans La nuit au Moyen-Âge, que vous pouvez lire si ça vous intéresse. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que, au moins, l'argument de la petitesse des lits, qui obligerait donc à dormir assis, ne tient pas. Bah oui, parce que déjà, leur lit nous semble souvent plus petit, mais c'est à cause du baldaquin, de leur largeur et de l'épaisseur de ce lit même. La taille de la pièce joue aussi pour créer cet effet d'optique. Plus une pièce est grande, plus le lit paraît petit. Bon, si vous regardez le lit de Louis XIV, par exemple, bon, je sais, on n'est plus au Moyen-Âge, mais c'est un bon exemple. Louis XIV, donc le lit de Louis XIV à Versailles, il paraît minuscule. Pourtant, Louis le Grand, comme on l'appelait, mesurait 1m84. Bon, cependant, au Moyen-Âge, les gens étaient quand même sensiblement plus petits en moyenne.
D'où le nom Moyen-Âge.
C'est plus pratique quand même pour passer sous les portes de châteaux forts qui, elles aussi, sont petites.
Bon, on va pas s'attarder sur des histoires à dormir debout.
C'est vrai que là, on devient un peu 20 minutes d'histoire, hein.
Continuons avec le petit Bruno d'Agen qui nous dit « Tous les matins, je me demande si tout nombre entier pair strictement supérieur à 2 peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers. Pouvez-vous m'aider ?»
Alors, avant de répondre à cette question, nous vous demandons de bien vouloir nous faire signe si vous aussi, votre enfant se pose ce genre de questions vers 4-5 ans. Nous l'enverrons directement à la NASA.
Ou chez le psy. Bref, pour la question, on ne peut pas vraiment t'aider. Cette proposition s'appelle la conjecture de Goldbach et n'a toujours pas été démontrée, même si la plupart des mathématiciens pensent qu'elle est vraie. Mais si tu veux essayer de la démontrer, tu peux toujours.
Ouais, t'as des chances de vraiment finir chez le psy.
Il me semble même qu'à une époque, il y avait une récompense de plusieurs milliers d'euros qui était offerte pour qui apporterait une démonstration ou un contre-exemple.
Ah bah là, ça devient vraiment une question intéressante.
Bon, continuons dans les mathématiques. Visiblement, personne ne nous a envoyé de questions de physique. Avec la petite Pétronie de Saint-Leu-la-Forêt qui nous dit « Mon grand frère qui fait de l'informatique m'a dit que 1 plus 1, ça faisait 10, mais la maîtresse nous a dit que ça fait 2. Alors je ne sais plus qui c'est qui se trompe. »
Personne. Enfin, si ton grand frère, parce qu'il fait de l'informatique d'une part, et parce que même en base 2, 1 plus 1, ça fait toujours 2. C'est juste que 2, ça s'écrit 1, 0. Pour faire simple, on compte d'habitude en base 10, c'est-à-dire qu'on a 10 caractères unités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui symbolisent un nombre d'objets. 0, pas d'objet, 1, un objet, 2, un objet de plus que 1, etc. Quand on arrive à 9 et qu'on rajoute un objet, on a rempli une dizaine, qu'on indique donc par 1, 0, pour dire une dizaine et 0 unité. Et on peut continuer à remplir. De même, quand on a rempli 10 dizaines, on passe aux centaines, etc. En base 2, ou base binaire, qui est pratique pour les ordinateurs, on n'a que 2 caractères, 0 et 1. Aussi, quand on veut écrire 2, on est déjà à court de caractères, on l'écrit donc 1, 0. De même, 3 s'écrira 1, 1, et 4 s'écrira 1, 0, 0. Mais ça ne change rien au fait que 1 et 1 font 2.
Et si on rajoute un carambar plus un malabar et qu'on soustrait 2 sucettes pour le multiplier par 3 frestagada, ça fait combien ?
Un sourire à la Jeanne Calment.
Bon, tant qu'on y est, on peut aussi signaler que la base 10 n'a pas toujours été utilisée, même si elle nous semble naturelle parce qu'on a 10 doigts et que c'est quand même pratique d'apprendre à compter en s'aidant de ses doigts. Mais par exemple, les Babyloniens utilisaient la base 60.
Donc on peut légitimement se demander si les Babyloniens avaient 60 doigts.
Ou encore, les Aztèques et les Mayas utilisaient la base 20.
On imagine déjà les petits Aztèques en train de compter sur leurs doigts de pied en classe.
Le petit Gontran de Montbrun-les-Bains nous demande quel pourcentage de chance j'ai de croiser quelqu'un que je connais dans la rue.
C'est une question intéressante.
Mais on va pas y répondre. D'une part, c'est parce que je doute qu'on puisse faire une réponse exacte sans tenir compte du nombre de personnes qu'on connaît, de la fréquence à laquelle des gens sortent de chez eux, et du pourcentage de chance qu'on a de ne pas reconnaître quelqu'un qu'on connaît quand on le croise, qui sont des données inconnues.
Mais aussi parce que les geeks qui nous écoutent, qui ne sortent pas de chez eux quand ils n'y sont pas obligés, risqueraient de ne pas se reconnaître dans cette question.
C'est pourquoi nous allons plutôt calculer pour vous en direct, de tête et sans trucage. Quel est le pourcentage de chance qu'au moins 2 personnes aient leur anniversaire le même jour dans une classe de 35 élèves ?
Je tiens à préciser que j'aime les gens qui répondent à côté des questions et qui posent des questions encore plus idiotes.
Alors, comme ça, à la louche, 365 jours dans l'année, 35 élèves, vous voyez ça de l'ordre de combien ?
Non, je sais pas, 1 sur 10 ?
Eh bien, si on fait le calcul, on trouve 81,44%, c'est-à-dire plus de 8 chances sur 10. Alors, comment fait-on pour trouver ce résultat ? Le plus simple reste de calculer quelle est la probabilité que tous les élèves de la classe de 35 soient nés un jour différent. Et ensuite de dire que la probabilité que tous les élèves soient nés un jour différent, plus la probabilité que au moins 2 élèves soient nés le même jour, ça nous donne 100%. Pour calculer cette probabilité, il suffit de regarder le nombre de listes de 35 dates différentes qu'on peut faire parmi les 365 dates de l'année et de le diviser par le nombre total de listes de 35 dates, différentes ou non, qu'on peut faire parmi les 365 dates de l'année. Pour faire simple, on oublie les années bissextiles. Donc, le premier nombre, le nombre de listes de 35 dates différentes prises parmi les 365 de l'année, c'est simplement 365 x 364 x 363, etc. jusqu'à avoir 35 nombres, puisque nous avons pour la première date 365 choix possibles, pour la seconde plus que 364 puisque une a déjà été réservée, pour la troisième plus que 363, etc. Et donc ça, de tête, ça fait 8,88 x 10 puissance 88.
Oui, donc ça fait beaucoup, hein, je traduis.
Et donc l'autre nombre, c'est-à-dire le nombre de listes de 35 dates différentes ou non prises parmi les 365 dates de l'année, c'est simplement 365 puissance 35, puisque nous avons 365 choix pour chaque date, donc 365 x 365 x 35 fois. Et donc ça, ça vaut à peu près 4,79 x 10 puissance 89.
Encore plus.
Et donc quand on fait le ratio, ça vaut 18,56%.
Je rappelle qu'on fait tous les calculs de tête, en direct et sans trucage.
Et donc en arrondissant, il n'y a que 20% de chance, soit une chance sur 5, que tous les élèves d'une classe de 35 soient nés un jour différent. Ce qui laisse donc 80% de chance qu'au moins 2 élèves soient nés le même jour.
Sur ce, passons maintenant au petit Sacha de Bourg-Palette qui nous dit « Quand j'ai demandé à la maîtresse pourquoi le ciel était bleu, elle m'a dit que c'était compliqué. » Et que je ferais mieux de m'intéresser à des choses de mon âge, comme comprendre, par exemple, pourquoi Pikachu évolue en Raichu et non en Tortank. Mais bon, moi, je voudrais quand même comprendre.
Ah bah voilà une bonne question.
Ouais, c'est vrai ça, pourquoi Pikachu évolue en Raichu et pas en Tortank ?
Je parlais de la question sur la couleur du ciel. C'est une question de physique, et on se l'est tous au moins posé une fois, j'en suis sûr. Qui plus est, c'est une question frustrante, car la réponse n'est pas simple. Et donc, en général, on a le droit à des explications farfelues. Du style, on n'est pas sûr que Dieu ait très bon goût, mais quand même, le ciel violet à pois rose, on aurait trouvé ça choquant. Ou alors, il n'y avait plus de peinture rouge, finis ta soupe et va te coucher.
Alors pourquoi ? Pourquoi ?
Plutôt que de répondre directement,
ce qui couperait court à tout suspense,
on va procéder un peu par élimination et se demander pourquoi le ciel pourrait être bleu. D'abord, de quoi est composé ce qu'on appelle le ciel ? Ce qu'on voit, c'est d'abord de l'atmosphère, c'est-à-dire une couche de gaz retenue par l'attraction terrestre, de l'air, pour faire simple. Or, l'air est incolore, tout le monde le sait, ça.
Sauf peut-être les Écossais qui vivent dans des régions sujettes à de forts brouillards.
Et où la vision est bien souvent fort troublée par de doux breuvages.
Donc, ça ne peut pas être juste l'air. L'autre possibilité, ce serait de dire que la lumière qui nous arrive est bleue. Mais malheureusement, les rayons lumineux en provenant du soleil sont blancs, dans le sens où ils contiennent toutes les longueurs d'onde correspondantes aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Et donc c'est encore raté.
Alors, pourquoi ?
La réponse tient en deux mots. Diffusion Rayleigh. Et là, tout devient limpide. Ou bleu. Enfin, façon de parler, quoi.
vu la tête horrifiée des gens en régie, apparemment pas. Hein.
Bon, alors, pour faire simple. Les molécules de gaz de l'atmosphère forment des dipôles, c'est-à-dire un ensemble de deux charges, l'une positive et l'autre négative. Sous l'action d'un champ électromagnétique, en l'occurrence un rayon lumineux, les dipôles vont diffuser une partie de la lumière reçue, c'est-à-dire qu'ils vont la renvoyer dans toutes les directions.
Direction.
Et il se trouve, après un long calcul, que les dipôles... Bon, merci pour ces interventions spirituelles. Donc il se trouve, après un long calcul, que les dipôles de l'atmosphère renvoient préférentiellement les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire le violet bleu de l'arc-en-ciel. Et c'est donc pour ça que le ciel est bleu.
Et comme on dit toujours, les plus courtes sont toujours les meilleures.
Oui, mais alors, pourquoi le ciel est rouge au lever ou au coucher du soleil si les molécules renvoient toujours en priorité le bleu des rayons lumineux ?
Pff, t'en as de ces questions compliquées, toi, on a bien fait de te recruter, hein.
Eh bien, simplement parce qu'au lever ou au coucher du soleil, la couche d'air à traverser est plus grande puisque les rayons ne nous arrivent pas directement. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'ils nous arrivent, tout le bleu des rayons a déjà été diffusé. Il ne reste donc plus que le rouge-orange-jaune qui, s'il est moins diffusé que le violet-bleu, l'est toujours un peu.
Ouah.
Poursuivons avec la question de la petite Louisa de Savigny-sur-Orge qui nous demande comment les avions volent.
Nous commencerons par rappeler que voler, c'est mal, et que Transistor ne pourra pas être poursuivi en justice pour incitation à troubler l'ordre public. Ensuite, j'avais déjà dit que je ne répondrais pas à cette question.
Comme quoi, on ne filtre vraiment aucune question.
Il faudra peut-être que je pense à embaucher un videur plus efficace du genre « Ah non, c'est pas possible !»
Bon, mais on va quand même donner une petite explication. Vas-y Théo.
En général, on vous explique que c'est grâce à la force dite de portance qui pousse les avions vers le haut. Pour ça, il faut visualiser une aile d'avion. Bon, c'est bon ? Vous la voyez ? Voilà. Une aile d'avion est bombée sur le haut. On vous dit que l'air met le même temps à parcourir le chemin au-dessus et en dessous de l'aile. Comme l'air est bombé...
Bomba !
Non, bombé.
Bon, l'air du dessus parcourt plus du chemin, donc doit aller plus vite pour parcourir la même distance. Ensuite, on invoque le théorème de Bernoulli.
Quel rapport avec les spaghettis ?
Qui lie la vitesse d'un fluide à sa pression et qui dit, en simplifiant, que plus le courant est rapide, plus la pression est basse. Avec ça, on arrive très facilement à la conclusion que l'air en dessous de l'aile a une pression plus importante que celui au-dessus de l'aile, ce qui veut dire qu'on appuie plus en dessous que dessus, et donc que si ce phénomène est suffisant pour compenser la force de gravité qui s'exerce sur l'aile, on décolle.
Sauf que, c'est très gentil, mais c'est faux. Non pas que le théorème de Bernoulli soit faux ou que les ailes d'avion ne soient pas réellement bombées, mais simplement, il n'y a pas de raison a priori que l'air qui passe en dessous doive mettre le même temps pour parcourir le chemin que l'air qui passe au-dessus. Et donc, tout s'effondre !
C'est le cas de le dire, mais bon, je vous passerai tous les jeux de mots déplacés sur des avions et des tours qui s'effondrent.
La vraie raison est donc sans doute plus compliquée et demande d'importants calculs de mécanique des fluides qui seraient très peu pratiques à expliquer à l'oral.
Et c'est là qu'on est content que le BDE n'ait plus d'argent et qu'il nous ait refusé d'acheter un camion et une caméra pour faire une émission de télé comme celle de Fred et Jamy.
En même temps, j'aurais bien aimé avoir les lunettes de Jamy, moi. Mm-hmm. Ah non, c'est Fred qui a des lunettes. Bon, pour finir, nous avons une question de Jean-Pierre Liégeois, jeune lecteur du Var, qui nous dit « Mon papa dit que les lettres que vous lisez à l'antenne sont des fausses et que vous n'avez jamais reçu de questions de la part des auditeurs. » Déjà c'est faux. Au moins une des questions a réellement été posée par un des auditeurs.
Mais nous ne vous dirons pas laquelle pour préserver son anonymat.
Ensuite, je pense que Papa Liégeois ferait mieux de tenter de résoudre la conjecture de Goldbar et...
Bon, en fait, on n'a qu'à dire hein, que la vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants et na.
Cependant, il ne tient qu'à vous de nous poser d'autres questions que vous vous posez pour que nous puissions tenter d'y répondre.
Bon, cette fois, on les filtrera par contre.
Dans la prochaine émission.
Pour que ces fameuses questions nous parviennent, envoyez-les-nous à l'adresse transistor@ens-lyon.fr.
Sur ce, à vous les studios.
Avec E égale NS, plus besoin de maîtresse.